Bonjour à toutes et à tous. Soyez encore les bienvenus en ce lieu où nous nous rassemblons. Je revois notamment un visage connu et je suis content aussi de rencontrer ton épouse, Nathan. Sois le bienvenu, soyez les bienvenus. Merci aussi à Somme d'avoir fait bouger du monde au milieu, ce qui fait que maintenant on a l'impression que l'église est remplie. Dans l'histoire des évangéliques en France, nous retiendrons en particulier une date, janvier 2001. Lors d'une rencontre des responsables d'Union d'Églises évangéliques, Jacques Mouillon, qui nous a quittés récemment et qui était alors le président de la Fédération évangélique de France, s'est levé ce jour-là et a demandé spontanément pardon aux églises des assemblées de Dieu, pour les attitudes et les paroles blessantes de la fédération à leur égard. À la rencontre suivante, en juin 2001, c'était au tour de l'Union des assemblées de Dieu d'adresser aussi une demande réciproque de pardon. Et c'est dans ce contexte de réconciliation qu'est né le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Et plusieurs de ceux qui étaient présents lors de ces rencontres témoignent que Dieu a conduit les choses de cette manière, vers le pardon, vers la réconciliation. Parmi les nombreuses définitions de l'Église, nous pouvons dire de manière simplifiée que l'Église, c'est la communauté des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu et réconciliés entre eux, grâce à l'œuvre salutaire de Jésus-Christ. De tous les modèles de société qui existent dans ce monde, l'Église, telle que Dieu l'a voulu, est appelée à être la communauté où règne la paix. Et pourtant, déjà au temps de l'apôtre Paul, les tensions existaient entre les chrétiens parce que les uns étaient d'origine juive, avec une longue histoire de leur peuple avec Dieu, et les autres étaient d'origine non-juive, païenne, venant après coup se greffer au peuple de Dieu. Et dans plusieurs de ces lettres, nous percevons cette préoccupation constante de Paul de rappeler à tous qu'ils sont frères et sœurs, unis en Christ, ayant reçu le même esprit, la même foi et les mêmes bénédictions, quelle que soit leur origine. Et puisque nous sommes en ce moment dans la lettre aux Éphésiens, eh bien, regardons comment Paul parle de l'Église. Et précédemment, nous avons vu au chapitre 1, verset 10, que Paul évoque ce qui sera l'aboutissement du plan de Dieu. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons lu ce verset. « Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. » Et cette harmonie finale que nous ne vivons pas encore, commence déjà avec ce qui se passe dans l'Église. Nous avons déjà, dès aujourd'hui, un avant-goût de cette réalité future, de cette harmonie qui sera totale. Dans ce même chapitre, versets 22 et 23, Paul déclare que Dieu a donné Christ pour chef à l'Église, qui est son corps. Et c'est dire l'importance de Christ par rapport à l'Église. Dieu a donné pour chef Christ à l'Église. Et au chapitre 2, que nous avons vu la semaine dernière, Paul rappelle à ses destinataires combien Dieu a été bon envers eux. Ils étaient morts spirituellement, incapables de se soumettre à Dieu, et Dieu les a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce qu'ils sont sauvés, en vue d'une vie nouvelle, riche, en bonnes œuvres. Voilà ce que nous avons vu la semaine dernière et les semaines précédentes. Et nous pourrions nous attendre, après avoir dit tout cela, à ce que l'apôtre poursuive par des recommandations pratiques. Et bien maintenant, comment doit-on vivre cette vie nouvelle? Et bien effectivement, il le fera un peu plus loin dans sa lettre, mais pour l'heure, Paul veut que ses destinataires d'origine non-juive mesurent tout le privilège qu'ils ont de faire désormais partie de l'Église. Paul veut que ses destinataires puissent mesurer tout le privilège qu'ils ont de faire désormais partie de l'Église, du peuple de Dieu. Et ce privilège, Christ l'a acquis pour eux, pour nous. C'est ce que le texte d'aujourd'hui nous amène à approfondir. Que signifie faire partie de l'Église? Et ce texte nous enseigne au moins 5 vérités au sujet de l'Église, que je vous propose de voir ensemble. 5 vérités qui sont tirées de ce texte. Et c'est vrai, on doit prendre le temps de s'enraciner dans la vérité de la parole de Dieu. Tout ce qui concernera la partie pratique et la mise en œuvre ou la mise en pratique de cette vie nouvelle, eh bien, arrive petit à petit dans les chapitres suivants. Mais jusqu'à maintenant, nous voulons prendre le temps de nous enraciner dans cette vérité, comme pour préparer le terrain. Nous devons savoir ce qu'est l'Église pour vivre ensuite comme Dieu veut que nous vivions en tant qu'Église. Et c'est pour cela que je vous propose vraiment de nous enraciner encore dans ces vérités que nous allons voir ensemble. Et que premièrement, l'intégration des non-juifs faisait partie du plan de Dieu. C'est ce que nous voyons au début de notre texte. L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens qui sont d'origine non-juive, pour la majorité, et il leur demande de se souvenir de ce passé où ils étaient loin de ce Dieu. Si nous lisons le verset 11, c'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Paul fait référence à une réalité que nous remarquons dans d'autres textes du Nouveau Testament. Il y avait du mépris chez les Juifs à l'égard des non-Juifs. Parce qu'ils étaient incirconcis, ils n'étaient pas fréquentables. Et la circoncision était la marque distinctive des Juifs, le signe physique de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham il y a bien longtemps. Abraham, l'ancêtre d'Israël. Or, les incirconcis ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Avant la venue de Jésus, les autres nations vivaient à l'écart de cette relation entre le Dieu créateur et son peuple élu. Les autres nations vivaient à l'écart de cette relation. Seuls quelques étrangers ont pu faire partie du peuple de Dieu. C'était par exemple le cas de Ruth. Ruth qui n'était pas israélite, mais qui reconnaissait le Dieu d'Israël comme son Dieu. Cependant, pour une immense majorité de non-juifs, Paul liste tout ce qui leur manquait. Ils étaient sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les non-juifs n'avaient pas reçu la révélation du Dieu véritable. Ce qu'ils adoraient, c'était des faux dieux, des dieux qui n'existaient pas, qui n'étaient pas des dieux. Les non-juifs n'avaient pas reçu cette révélation au même titre qu'Israël. Et dans un de ses discours publics, l'apôtre Paul explique justement à des non-juifs ceci. Dans Actes chapitre 14, versets 16 et 17. Paul explique « Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. » Depuis la venue de Jésus, et en particulier depuis son œuvre de salut, des hommes et des femmes de toutes les nations peuvent rejoindre le peuple de Dieu. Quand Jésus est venu, qu'il a donné sa vie sur la croix, qu'il est ensuite revenu à la vie, la situation pour toutes ces nations a été renversée. C'est pour cela qu'au verset 13, l'apôtre Paul écrit « Mais maintenant, il y avait autrefois, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Dans le plan de Dieu, les non-juifs devaient, au moment fixé, être intégrés à son peuple. Recevoir les mêmes privilèges, les mêmes bénédictions, le même héritage que les Juifs. Ils étaient loin, mais Dieu a voulu qu'ils soient proches par le sang de Christ. Et cette référence au sacrifice, lorsque nous parlons du sang de Christ, nous montre ce qu'il était nécessaire de faire, ce que Dieu a accepté de faire pour que ce rapprochement soit possible. Sans cela, pas de non-juifs dans le peuple de Dieu. Et donc, ça nous exclut aussi. Nous nous rendons alors compte que si nous avions vécu à une autre époque, avant la venue de Jésus, en tant que non-juifs, nous aurions été sans espérance et sans lien avec tout ce que Dieu a promis à Israël. Mais c'est notre Dieu qui maîtrise l'histoire. Il nous a placés à notre époque de telle sorte que nous puissions être aujourd'hui aussi reconnaissants que les chrétiens au temps de Paul. Cet après-midi, de nouveau, il nous faut mesurer notre privilège de vivre à cette époque, après la croix. Dieu avait planifié l'intégration des non-juifs dans son peuple. Et c'est pourquoi, 2000 ans après, nous sommes concernés par le plan de Dieu qui continue de se réaliser. C'est parce que Dieu a envoyé Jésus que cela a été possible pour nous. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Jésus a rendu possible la réconciliation entre juifs et non-juifs. Nous lisons les versets 14 et 15. « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait. » La haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Nous avons vu que les deux groupes, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, étaient animés de sentiments hostiles, réciproques. Et la traduction que nous avons ici va jusqu'à parler de haine, pour indiquer que les uns et les autres se traitaient comme des ennemis. Mais le grand réconciliateur a mis fin à tout ça. Jésus est notre paix, écrit l'apôtre Paul. Jésus est notre paix. Par son œuvre, Jésus apporte la paix qui met un terme à toute hostilité entre les hommes. Il a fallu que Jésus donne sa vie pour que le mur qui séparait juifs et non-juifs soit renversé, abattu. Un mur qui peut faire penser notamment à la limite physique qui entourait le temple, ce mur qui entourait le temple et qui empêchait les non-juifs d'entrer dans les lieux réservés aux juifs. Vous voyez sur cette image ce mur, qui est une sorte de muret sur notre image, et qui entourait le temple, et qui est une barrière pour les non-juifs, qui ne pouvaient pas aller plus loin, sous peine de mourir. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une référence à cela, mais il me semble aussi que dans notre texte, Paul semble parler d'un mur dans un sens imagé. Parce que qu'est-ce qui séparait juifs et non-juifs ? Ce n'était pas simplement ce mur physique, c'était la loi. La loi donnée par Dieu, avec ses commandements et ses règles. Et un commentateur mentionne que les simples règles alimentaires, par exemple, empêchaient juifs et non-juifs de manger ensemble. Selon la loi de Moïse, tous les animaux n'étaient pas comestibles. Et surtout, comment concilier un repas où les viandes sacrifiées ne sont pas offertes au même Dieu ? Mais ce mur ne devait pas les séparer pour toujours. Christ est mort pour que tout ce qui est impur ne soit plus déclaré impur. Et s'il nous a ainsi tous purifiés, il n'y a plus de ligne de démarcation entre les uns et les autres. Par son sacrifice, Jésus introduit une nouvelle alliance où il n'y a plus de séparation entre les hommes. Et l'œuvre de Christ a vraiment changé la donne. Désormais, il est question d'une nouvelle humanité. Il n'y a plus deux groupes, mais un groupe, un seul groupe. C'était le plan de Dieu qu'il y ait une seule humanité réconciliée autour de Christ. Juifs et non-juifs font partie de cette même humanité que Dieu a sauvée par Jésus-Christ. Et est-ce que nous vivons dans l'Église cette nouvelle humanité? Une nouvelle humanité affranchie de toutes les barrières. Est-ce que nous le vivons? Si aujourd'hui, ce n'est plus la distinction entre juifs et non-juifs qui est cause de discorde dans nos églises, nous avons encore à surmonter d'autres barrières, d'ordre culturel, générationnel ou même social. Et à cause de notre péché, nous dressons encore des murs qui n'ont pourtant plus lieu d'être. L'Église est la communauté où nous sommes réconciliés les uns avec les autres, car Christ a fait tomber toutes ces barrières. Alors réfléchissons un instant à notre comportement avec nos frères et sœurs. Est-ce que nous œuvrons plutôt dans le sens de la réconciliation, dans le sens de l'unité, ou plutôt, peut-être de manière inconsciente, dans le sens de la division? Est-ce que la paix est ce qui caractérise nos relations les uns avec les autres? Est-ce que sans m'en rendre compte, j'ai dressé un mur entre moi et mon frère ou ma sœur? Et si c'est le cas, nous devons nous rappeler que Jésus a payé le prix pour que nous vivions d'une manière réconciliée. Si c'est le cas, nous devons savoir nous demander pardon les uns aux autres pour aller dans le sens de la réconciliation voulue par Dieu. Et puis dans la suite du texte, de manière tout à fait liée à ce que nous venons de voir, Jésus a rendu possible la réconciliation entre juifs et non-juifs, et bien également il a rendu possible la réconciliation entre les hommes et Dieu. Verset 16, « Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. » Dans la continuité de ce qui précède, Paul rappelle que Jésus a œuvré pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et bien sûr, avec l'intention de nous unir dans un seul corps qu'est l'Église. Non pas deux groupes, encore une fois, mais un seul groupe. Et cette réconciliation avec Dieu, en fait, vient même en premier. Il nous faut d'abord être réconciliés avec Dieu avant que nous puissions nous retrouver dans cette famille et que nous soyons réconciliés les uns avec les autres. Il a fallu que Jésus meure de la mort que nous méritions pour nos péchés, afin que Dieu puisse nous pardonner. Et c'est à la croix, et nous l'avons aussi chanté, c'est à la croix que Jésus a détruit ce qui faisait de nous les ennemis de Dieu. Le péché, depuis la chute, nous sépare de Dieu, car chaque acte pécheur est une désobéissance à ce Dieu vivant. Chaque acte pécheur est une offense à son égard, est une expression de notre révolte. Et Paul écrit également dans une autre lettre, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 10, « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Les termes sont forts. Nous étions les ennemis de Dieu. Bien que créatures de Dieu, créées à son image, nous étions les ennemis de Dieu. La semaine dernière, nous parlions du fait que nous étions morts spirituellement, séparés de lui. Et bien là, de manière aussi tout à fait accentuée, il nous faut rappeler que nous étions ses ennemis. Et pourtant, dans cette réconciliation dont il est question, notamment dans ce verset et dans notre passage, pourtant, c'est Dieu qui a fait le premier pas dans cette réconciliation. Nous l'avons offensé et c'est pourtant lui qui trouve le moyen de la réconciliation. Et c'est certain, tout pécheur doit suivre ce chemin de réconciliation qui nous a été ouvert par la mort de Jésus. Nous devons passer par ce chemin-là pour être réconciliés avec Dieu. C'est le message que Jésus annonce par ses porte-paroles. L'évangile de paix. Jésus annonce l'évangile de paix. Et il le fait notamment à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les non-juifs. Et auprès d'eux, il a notamment envoyé l'apôtre Paul. Et donc Jésus annonce cet évangile de paix adressé aux hommes et aux femmes de toutes les nations. Et ce verset 17 cite la prophétie d'Ésaïe 57, verset 19, où l'Éternel avait annoncé qu'il y aurait, malgré l'infidélité de son peuple, un temps où ce serait la paix. Et la paix dont il est question, nous le comprenons ici, c'est la paix entre les hommes et Dieu. C'est de cette paix-là dont nous avons tant besoin et que notre humanité a tant besoin. Voilà la bonne nouvelle, voilà l'évangile, Dieu qui nous offre la réconciliation. Et puisqu'il n'y a plus d'hostilité entre nous et Dieu, nous pouvons, grâce à Jésus, nous approcher de Dieu. Dieu, notre Père à tous, lui qui nous a adoptés en Christ. Nous sommes vraiment ses enfants. Il a accepté cela, que nous soyons ses enfants. Et Jésus nous donne cet accès et de cette manière-là, nous sommes en relation, en communion avec le Père par l'Esprit. Dieu nous a donné son Esprit de telle sorte que nous soyons en relation avec lui. Et c'est par ce même Esprit que nous crions « Abba, Père ». Nous sommes, grâce à Jésus, réconciliés avec Dieu. Alors j'aimerais te poser cette question cet après-midi. Comment va ta relation avec Dieu, ton Père ? Vis-tu cette relation de réconciliation ? Demandes-tu régulièrement pardon à Dieu pour tes péchés ? Dieu nous a pardonné et continue de le faire à chaque fois que nous venons à lui et que nous reconnaissons nos torts, que nous reconnaissons que c'est Jésus qui a payé pour nous. Et effectivement, il nous pardonne parce que ce péché que tu as commis cette semaine, Jésus est déjà mort pour ça. Alors oui, Dieu peut nous pardonner, effectivement. Et nous pouvons vivre cette relation de réconciliation avec lui. Vis-tu cette relation de proximité avec Dieu ? Tout à l'heure, nous avons chanté « Je désire habiter près de toi ». Est-ce que nous le voulons, vraiment ? Est-ce que nous vivons cette proximité avec Dieu ? Cette proximité qui nous a été acquise par l'œuvre de Jésus, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Est-ce que tu vis cette relation ? En venant au Père jour après jour. Je sais qu'il arrive que nous nous éloignions de Dieu. Et c'est toujours de notre faute quand cela arrive. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous qui nous éloignons de lui. C'est pourquoi l'Église est la communauté où nous nous encourageons mutuellement. Écoutez plutôt l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 3, verset 13, « Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Quel privilège nous avons d'avoir l'Église pour pouvoir nous encourager mutuellement à rester proche de notre Dieu, à vivre cette relation de proximité et de réconciliation. Quatrième vérité qui découle de tout ce que nous avons vu jusque-là, c'est que les non-juifs font partie du nouveau peuple de Dieu. C'est ce que nous voyons au verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Paul réaffirme ici, d'une autre manière, le changement définitif du statut des non-juifs. Ils ne sont plus des étrangers par rapport au peuple de Dieu. Au contraire, ils sont les bienvenus. Et ils font partie de ce nouveau peuple constitué de juifs et de non-juifs. Ce qui n'était pas envisageable auparavant a été rendu possible grâce à l'œuvre que Jésus a parfaitement accomplie. Les non-juifs sont les bienvenus dans le peuple de Dieu. Nous sommes les bienvenus dans ce peuple. Et l'apôtre peut affirmer que les chrétiens d'origine non-juive sont concitoyens des saints. Ils ont la citoyenneté du peuple qui appartient à Dieu. Ils ont la citoyenneté du peuple qui est consacré à Dieu. Et peut-être qu'à cette époque, certains n'étaient même pas citoyens de l'Empire romain. Mais qu'importe ! Ils sont maintenant, avec d'autres, citoyens du royaume de Dieu. Et ça, c'est beaucoup mieux. Et l'autre image qui doit aussi encourager les Éphésiens et nous encourager, c'est qu'ils sont membres de la famille de Dieu, désormais. En devenant chrétien, j'entre dans une famille que Dieu ne cesse d'agrandir sur terre. J'ai des frères et sœurs ici, à Saint-Maur, et dans bien d'autres églises. Et quand je rejoins notamment une église à l'étranger, je ne suis pas un étranger. Quand je rejoins une église à l'étranger, je ne suis pas un étranger, mais je suis avec ma famille. Il n'y a pas de douane à l'entrée qui m'empêcherait d'être reconnu comme enfant de Dieu, comme membre de sa famille. Il est bon de nous rappeler régulièrement cette vérité. Nous ne sommes pas seulement une famille, mais nous faisons partie de la famille de Dieu. Parfois, certains groupes se disent qu'ils sont une famille, mais nous ne sommes pas seulement une famille, nous sommes la famille de Dieu. Cette famille à laquelle nous appartenons, elle est à Dieu. C'est la sienne. C'est lui qui en est à l'origine. C'est lui qui l'a constituée. C'est lui qui nous a reliés les uns aux autres par Jésus-Christ. Cette famille, c'est son projet. Et il a voulu, dans sa grâce et dans son amour, que nous en fassions partie. Nous ne sommes pas seulement une famille, nous sommes la famille de Dieu. Et nous verrons plus tard dans la suite de la lettre aux Éphésiens qu'il y a une façon de vivre dans la famille de Dieu, justement. Mais pour l'instant, nous préparons le terrain. Nous devons encore nous enraciner dans cette vérité que nous sommes la famille de Dieu pour ensuite savoir comment y vivre. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais encore une fois, je veux encore le répéter, l'Église n'est pas n'importe quelle famille, c'est la famille de Dieu. Et cela même au-delà de l'ambiance familiale qui peut exister entre nous. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Oui ? Alors, on va terminer sur la cinquième vérité. L'Église est le nouveau temple de Dieu. Verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Paul utilise une dernière image ici, celle de la construction. L'Église est comparée à un édifice. Et ça, bien avant l'existence des bâtiments que nous appelons aujourd'hui « Église ». L'Église est comparée à un édifice. C'est une image. Et je vous propose vraiment de garder cette image en tête en ce qui nous concerne. Nous formons, du fait que nous soyons unis à Christ, la maison de Dieu, pour le dire autrement. Nous formons les uns et les autres, les uns avec les autres, la maison de Dieu. Une maison qui a pour fondement ce que les apôtres et les prophètes nous ont transmis. Ce sont eux qui ont annoncé les premiers l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont les porte-paroles de Christ. Et c'est sur leurs paroles que nous avons cru. C'est sur la base de leurs paroles que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Alors effectivement, ils sont mentionnés ici comme étant le fondement de l'Église. Et dans cette construction, Jésus aussi a un rôle, et pas des moindres. Il est désigné comme la pierre angulaire, et sans doute que si vous avez lu d'autres textes du Nouveau Testament, vous avez déjà entendu cette expression concernant Jésus. Jésus comme étant la pierre angulaire, la pierre principale. En fait, vous savez, c'est cette pierre que nous allons poser en premier et sur laquelle on posera les autres pierres. Si vous enlevez cette pierre, le bâtiment s'écroule. C'est la pierre d'angle, la pierre principale, la pierre qui participe à la stabilité de l'ensemble de l'édifice. Et comme la pierre angulaire est indispensable à la construction, Jésus est indispensable pour qu'il y ait Église. Jésus est indispensable pour que l'Église puisse continuer à grandir, pour que les pierres puissent s'ajouter et que cet édifice puisse continuer à s'élever. Si vous n'avez pas cette pierre angulaire, vous n'avez pas d'église. Et c'est pour ça que notre Seigneur est mentionné partout dans ces versets et partout dans notre texte. Il est tellement important. Et l'image de la construction sert aussi à indiquer la fonction de l'église, c'est-à-dire être un temple saint dans le Seigneur. Former une habitation de Dieu en esprit. Ces deux expressions nous rappellent que nous nous rassemblons pour adorer Dieu. Parce que c'est ce qui se passe dans un temple. Dans un temple, nous venons pour adorer Dieu. Ces expressions nous rappellent aussi que c'est là, dans le rassemblement même des chrétiens, que Dieu est présent par son esprit. L'Église, et je ne parle pas de ce lieu, mais de la communauté, l'Église est le nouveau temple désigné par Dieu pour y établir sa présence. Autrefois, il y avait eu le tabernacle, puis le temple qui a été détruit et reconstruit. Mais maintenant, Jésus, qui a œuvré pour la réconciliation, nous a réunis pour former ce nouveau temple. Qui n'est pas un temple fait de pierres physiques, mais de pierres que nous sommes de manière imagée. Là où nous nous rassemblons, Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec son peuple. C'est pourquoi, lorsque nous invitons notamment des non-chrétiens dans nos rassemblements, nous leur donnons l'occasion de voir Dieu au milieu de son peuple. Nous leur donnons l'occasion aussi de voir une communauté qui vit dans la paix comme nulle part ailleurs dans la société. Mais c'est un défi à relever, d'être à la hauteur, d'être une telle communauté où les relations sont des relations de paix, de réconciliation, et où effectivement, lorsque des non-chrétiens sont parmi nous, ils peuvent constater que Dieu est vraiment au milieu de nous. Et je fais juste une parenthèse, mais je ne voudrais froisser personne en disant cela. Et il me semble que dans le langage biblique, lorsque nous parlons de la maison de Dieu, nous ne désignons pas un bâtiment. Je sais que par habitude, nous disons « bienvenue dans la maison de Dieu ». Et vous aurez remarqué que, à titre personnel, je ne l'ai jamais dit. Parce qu'il me semble que la maison de Dieu, c'est nous, les personnes qui nous rassemblons. Et d'un certain côté, en y réfléchissant aussi, je pense que je m'avance un petit peu peut-être, mais je pense que Dieu n'a pas de souci avec le fait que parfois des bâtiments que nous appelons églises soient détruits. Parce que ça ne fait pas cesser l'Église pour autant. L'Église peut continuer à se réunir. Et je vous dis simplement cela pour que, bien sûr, nous ne puissions pas tomber dans la sacralisation d'un lieu. Combien même ce lieu serait fermé, l'Église continuerait. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Au terme de notre lecture d'Éphésiens 2, nous en ressortons avec de grandes vérités au sujet de l'Église. Que signifie donc faire partie de l'Église ? Eh bien, c'est se rappeler que l'intégration des non-juifs, et nous sommes des non-juifs, il ne faut pas l'oublier, faisait partie du plan de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous en sommes la preuve. Ensuite, c'est également se rappeler que Jésus a rendu possible la réconciliation entre juifs et non-juifs. Plus de barrières entre les hommes, entre les peuples. C'est se rappeler également que Jésus a rendu possible la réconciliation entre les hommes et Dieu. Et ça, c'est tellement important. Et par conséquent, c'est vivre selon notre nouveau statut. Les non-juifs font partie du nouveau peuple de Dieu, qui est aussi la famille de Dieu. Et enfin, l'Église est le nouveau temple de Dieu, la maison de Dieu, là où Dieu manifeste sa présence. Comme en 2001, avant la naissance du CNEF, nos efforts doivent porter sur la réconciliation pour des membres de la même famille, parce que c'est ce que nous sommes. C'est la réalité que nous devons vivre déjà ici, à l'église de Saint-Maur, ou dans toute autre église. Si nous avons des différends entre nous, ce qui peut arriver, le texte d'aujourd'hui nous aide à nous souvenir que Jésus, notre prince de paix, est venu pour que non seulement nous puissions faire la paix avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de faire sa volonté en étant cette communauté qui vit la réconciliation sur tous les plans. Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir être cette communauté-là. Que nous puissions vivre la réconciliation sur tous les plans, avec Dieu et les uns avec les autres. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Pour ta parole qui nous permet de rester ancrés dans la vérité qui vient de toi. Et ce que tu as à dire concernant l'Église nous concerne. Et nous voulons tellement te remercier, Seigneur, parce que dans ton plan, tu avais prévu que nous soyons là, que nous puissions faire partie de ton peuple. Et quel privilège pour nous, alors que nous savons bien que nous ne méritons pas une telle place. Nous voulons te remercier pour Jésus que tu as envoyé, qui s'est sacrifié pour nous, qui a accepté de donner sa vie pour payer pour nos fautes, pour que nous puissions être déclarés justes, et ainsi que nous puissions être non seulement réconciliés avec toi, mais aussi réconciliés les uns avec les autres, pour qu'il n'y ait plus de barrières entre nous. Et Seigneur, nous te demandons pardon lorsque nous continuons encore à ériger des murs qui nous séparent, lorsque nous faisons cela encore au sein de ton Église. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides, s'il te plaît, à pouvoir être cette communauté qui vit la réconciliation sur tous les plans. Nous voulons également tellement te louer parce que tu nous as intégrés dans ta famille. Quelle grâce de pouvoir s'appeler frère et sœur, mais aussi de t'appeler père, parce que c'est ce que tu es pour nous. Et enfin, nous voulons nous rendre compte aussi de cette haute vocation que c'est d'être le temple où Dieu établit sa demeure. Oui, nous voulons encore prendre conscience pleinement que tu as accepté de faire de nous ta demeure. Et nous le savons, c'est encore un privilège qui nous vient de ce que Jésus a fait pour nous. Accorde-nous, s'il te plaît, de pouvoir prendre la mesure de tout le privilège que c'est de faire partie de ton peuple, d'appartenir à ce peuple que tu t'es choisi et qui a pour vocation de te glorifier jour après jour, année après année, siècle après siècle, et en fait pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous voulons nous réjouir de ce privilège que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Et nous voulons vivre pleinement l'Église telle que tu la veux, avec ton aide, avec l'aide de ton esprit. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.